Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne, Sana Blanger.
Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité de cette heure supplémentaire. Moi, je suis vraiment ravie de vous accompagner jusqu'à 1h du matin dans la libre antenne d'Europe 1, 2h de direct à partager ensemble pour libérer la parole, échanger, nous raconter vos moments de vie en toute simplicité. Vous le savez, la libre antenne est votre émission. Ce soir, un des plus grands écrivains romantiques français du 19e siècle nous rend visite, Alfred de Musset. Je le cite, « Le cœur a beau mentir, la blessure est au fond ». Cette citation met en évidence ce que nous vivons à la libre antenne. En effet, vous nous faites part de vos expériences de vie, vous exprimez vos impressions et vos perceptions, vous prenez la parole pour aller chercher la blessure qui est au fond de vous. Nos auditeurs réagissent, certains compatissent à vos propos, d'autres vous engagent à vous relever pour aller de l'avant. Aucun ne vous condamne, admirant le courage que vous déployez dans votre témoignage. Pourtant, comme l'a compris Alfred de Musset, la blessure est au fond. Alors ce soir, dans la libre antenne, venez partager avec nos auditeurs votre histoire. Appelez-nous au 39 21. Pour venir enrichir notre chaîne d'amitié par SMS, il vous suffit de composer le 7 39 21 en commençant par le mot « nuit ». Vous pouvez également nous contacter par mail à libreantenne@europe1.fr. Vous savez que vous pouvez également réécouter cette émission en podcast sur le site d'Europe 1 dès demain. L'équipe est prête. Estelle et Maxime vous répondront au standard du 39-21. Et c'est Fabrice Rougerousse qui réalise l'émission ce soir. À tout de suite.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sana Blanger.
Nous accueillons notre première auditrice, Gisèle. Bonsoir Gisèle.
Bonsoir Sana.
Bienvenue à la libre antenne.
Oui, je suis très contente de vous entendre. Eh bien, donc je sais que l'actualité est très mauvaise. Mais je voulais vous parler de belles choses.
Disons que l'actualité est très lourde en ce moment.
Oui.
Ouais, oui, c'est... Oui. Ouh, c'est compliqué.
J'ai l'habitude de parler comme ça. Voilà, j'habite un petit hameau.
Oui.
J'ai des voisins charmants. Je ne vous entends pas, Sana. J'ai des voisins charmants.
Oui.
Et je suis propriétaire, malgré moi, de quelques petits minous.
Oui.
Voilà. Donc, je suis un peu gênée parce que c'est tellement léger ce que je vais vous dire que c'est ridicule.
Oh non. Non, non, ça n'est jamais ridicule. Vous voyez, ce que je disais en introduction, c'est que, en fait, les auditeurs sont là, ils vous écoutent. Certains partageront certainement également ce que vous vivez, ce que vous allez nous raconter.
Donc, et vu l'émotion que vous racontez, simplement.
Mais oui.
Donc, j'habite un petit hameau où les gens sont super. Où c'est en Saône-et-Loire. Vraiment un petit hameau. Et il y a une ferme pas loin de chez moi, à 500 mètres. Et tous les mois de mai, il y a des petits chats qui arrivent chez moi. Parce que donc je les fais stériliser, castrer et tout. Si je peux, oui. Parce que c'est pas évident, hein. Il faut téléphoner au vétérinaire, donc on a un rendez-vous, mais le petit chat, il n'est pas forcément là ce jour-là, c'est bête ce que je vous dis, oui c'est bête ce que je vous dis.
Mais non, c'est pas bête.
Si, c'est un petit peu bête, parce que c'est ridicule.
Mais qu'est-ce qui vous fait penser cela, Gisèle?
Parce que je me sens ridicule par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et tout, de me préoccuper de ça. Et donc, mon petit souci, c'est que je peux avoir une ordonnance d'un vétérinaire si j'amène une petite minette.
Oui.
Mais si je l'amène, je ne l'amène pas pour une ordonnance, je l'amène pour la faire stériliser, castrer et autres, même si ce n'est pas bien pour elle. Donc, je ne peux pas amener la minette, donc je n'ai pas d'ordonnance, donc je ne peux pas aller en pharmacie, trouver les petites pilules pour les petites.
Et
Voilà, pour les chaleurs. Et il y a des vétérinaires très bien, franchement très bien, qui m'en donnent. Mais à chaque fois, je galère un peu pour... Et ces petits chats, mais ils sont tous beaux. On a beau dire des chats de campagne, des chats de gouttière, comme on peut dire. Mais... Et je ne sais pas pourquoi ils viennent chez moi. Ils viennent parce que je laisse un peu ma fenêtre ouverte, parce que j'ai récupéré les chats de mon papa qui est décédé il y a 4 ans.
Oui.
Donc, ils sont venus chez moi. Mais ils sont 3. Et puis après, il y en a eu 4. Puis il y en a eu 5. Et puis, tous les mois de mai... Et moi, en septembre. Et c'est vraiment des petites boules de poils. Et moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas les... Voilà, les... Je ne sais pas dire le mot parce que ce n'est pas beau. C'est... Je ne peux pas m'en débarrasser. Bah. Voilà, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pas... C'est des petites boules de poils et qui vous donnent beaucoup d'amour.
Mais
beaucoup
oui, c'est tellement mignon.
Tendresse. Et donc, moi, c'était un petit peu au niveau de... je veux dire de... Je ne comprends pas. On devrait nous autoriser à obtenir ces petites pilules. Bon, c'est des boîtes de 12. Bon, ce n'est pas le prix. Et puis même le prix, c'est 6,95 et tout. Mais il y a des pharmacies qui ne vous les donnent pas. Et je les comprends. Et mon vétérinaire, puisque j'ai emmené des petits chats ben, depuis 5 ans où je suis là, tous les mois de mai, eh ben, il y en a un petit. Mais je ne suis jamais sûre le matin où j'ai pris rendez-vous qu'il sera là. Qui pourra bien rentrer dans la petite caisse, qui l'aura bien. Et c'est stressant, c'est... mais c'est ridicule, parce que vu tout ce qui se passe, les enfants qui meurent de faim et tout, on peut trouver ça ridicule. Mais donc, je ne sais pas comment je peux faire pour que ces petits chats ne viennent pas chez moi, mais ils iront où ?
Et ben oui.
Voilà. Et donc, voilà. Et donc ben, je les nourris. Et en plus, ils sont propres, ils sont beaux, ils sont...
Et puis ils vous font du bien, manifestement
oui,
aussi. Parce
voilà.
que c'est de la vie, hein, ces petits chatons qui courent partout.
Ben
donc
oui.
Vous devez vous amuser à les voir faire des bêtises, sauter partout.
Oh oui, ben oui, puis il y a des petits qui ont des petites pattes blanches, des petites bottes blanches, d'autres qui ont des yeux qui sont... Et il y a des cris, et puis ils ont des petits miaou différents. Et ils s'entendent bien, tous. Bon, j'ai perdu mon Oli, que j'avais fait stériliser, je ne sais pas. Bon, après, c'est la campagne, hein, on n'est pas sûr hein, que demain, le petit chat, il sera encore là. Mais c'est au moins 6 mois à vivre bien, beau. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est pharmacie, il y en a beaucoup qui jouent le jeu. Mais mon vétérinaire m'a dit, il n'a pas le droit. Il faut que je lui amène le chat pour qu'il me fasse une ordonnance.
Ouais.
Donc, je ne veux pas d'ordonnance. Si je lui amène le chat, c'est pour qu'il fasse en sorte qu'il ne se reproduise pas.
Oui,
donc,
bien sûr.
C'est pas...
bien sûr.
Voilà. Et la pharmacie ben, me dit, ben, il n'y a pas d'ordonnance. Et c'est bête. C'est ridicule. C'est un problème vraiment ridicule.
Vous mais en avez combien ça... maintenant, Gisèle ?
Eh bien, écoutez, là, en ce moment, qui dort, j'en ai 6.
Ah, c'est mignon.
Mais j'ai une petite maison, mais où ils n'ont pas de, comment dire, de, ils sortent dehors, donc ils sont propres, ils sont, bon, ben, j'ai nourri bien,
hein,
ouais. C'est pour ça qu'ils viennent chez moi, hein, c'est pas, et Sana, je sais pas comment vous dire, parce que c'est ridicule,
alors...
vu la période qu'on vit, vu le... Et je sais qu'il y a plein de gens en détresse, je sais. Moi, je n'ai pas à me plaindre, je suis dans un petit hameau où vraiment les gens sont adorables. J'ai des petites voisines adorables, j'ai la chance d'avoir vraiment des gens formidables autour de moi.
Eh bien, c'est bien de se rendre compte, et puis ça fait du bien aussi de l'entendre. Alors, vous voyez, il y a déjà des réactions, et nous venons de recevoir... Le SMS de Cindy, par exemple, qui dit « Bonsoir Gisèle, bravo pour ces petits chats de vous en occuper. Vous êtes une mamie minette. Bien à vous. » C'est mignon,
oui.
Mamie minette.
Je les aime. Hein, Mais bon.
« Bien à vous. Courage. Ne culpabilisez pas affectueusement Cindy. »
Oh, ben c'est gentil, Cindy.
Bon.
Mais vous savez, c'est depuis chaque mois de mai, et c'est des petites boules de poils.
Ouais.
Et je leur laisse toute la liberté. C'est-à-dire, je ne cherche pas à m'approcher de ces eux qui viennent tout doucement vers moi, qui viennent. Et Il m'apporte, mais je vous assure, j'ai une maison qui est propre. Il n'y a pas de crotte de minou, il n'y a rien du tout.
C'est très propre un chat, hein. Puis en plus quand, c'est, quand ils ont l'espace. Alors moi je voulais savoir Gisèle, est-ce que vous avez un ordinateur chez vous?
Non.
Non. Est-ce que vous avez entendu parler de réseaux sociaux comme Facebook ou...
Eh bien écoute, et j'ai entendu parler et alors, je me demandais, parce que j'avais entendu l'histoire de la jeune fille qui avait perdu son chien, qui l'a retrouvé, et c'était magnifique, c'était une belle histoire. Allô?
Oui, oui, je suis là, je vous écoute avec beaucoup d'attention.
Voilà. C'était
pour vous dire, en fait, Gisèle, que en fait, il y a des forums... des groupes d'aide aux chats sans logis, par exemple. Ou alors, il peut y avoir des forums comme ça qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner des idées ou des conseils, ou même peut-être même, dans votre région, vous mettre en contact avec soit des pharmacies ou des vétérinaires qui pourraient vous aider à stériliser ces chats.
Voilà.
En toute quiétude. Moi,
c'est un petit peu le but. Je veux surtout pas les supprimer.
Ce serait dommage.
Ils ont tellement peu de temps à vivre des fois. Parce qu'il y a des routes, il y a des chasseurs qui ne sont pas... Il y a aussi... Et moi, c'est leur vie. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai 65 ans. Et je me dis, si un jour, je disparais, parce que... Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors, je sais qu'ils trouveront peut-être un autre voisin, un autre truc. Allô?
Oui. Rassurez-vous, nous sommes là.
Bon, donc je suis ridicule, je le sais. Donc ne m'envoyez pas de messages méchants. Je ne souhaite pas, c'est pas ce que je veux. Mais je sais pas comment vous le dire, Sana.
Alors, en tout cas, sachez que là, au niveau du standard, il y a des réactions, il y a des personnes avec qui nous allons vous mettre en contact par la suite et qui souhaiteraient donc échanger avec vous. Laurence, j'en ai 5 des chats, Gisèle. Caramel, Minette, Chippy, Kaline et Stella.
Moi aussi, j'ai un caramel.
Je vis en HLM.
J'ai un 6.
Et je n'ai pas les moyens de les faire stériliser et Caramel de le faire castrer. Donc, voilà.
Ben voilà, c'est... Oui, et après, il y a aussi le coût. Mais bon, ce n'est pas l'histoire. Je ne suis pas ni riche ni rien. Mais après, c'est ça. Moi, c'est pour... Je ne veux pas qu'il y ait plein de petits gens en détresse. Voilà, c'est ça. C'est pas... Donc, je vous ai appelé un peu riche.
Non.
Mais vous avez tellement d'empathie, tellement de...
Bah oui, parce que les animaux, c'est vraiment... C'est du bonheur en barre, clairement.
Ah bah moi, c'est ma vie.
Je vous comprends. J'en ai moi-même un. C'est vraiment de la tendresse de part et d'autre, de l'amour.
Ils ne vous jugent pas.
C'est exactement ça.
Ils ne vous condamnent pas.
Non.
Ils sont là juste pour des petits câlins. Des petits... Et entre eux, ils ont une tendresse... Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, les petits chats du mois de mai, enfin d'un an avant, eh ben, ils se comportent comme des mamans avec des autres petits chats. C'est-à-dire, ils les éduquent. Et c'est incroyable de voir ça. Ils leur apprennent ce que leur maman, qui est peut-être plus de ce monde, n'a pas pu leur montrer. Ils leur apprennent. Ils leur apprennent la tendresse. Ils leur apprennent à ne pas montrer les griffes, à pas... Ils savent jouer, ils connaissent les doudous, ils ont comme des petits-enfants. Mmh. Moi, parce que j'avais mon Oli, donc j'ai des petits doudous, j'ai des petits... ils s'en servent, ils savent les sortir du tiroir, les prendre, jouer avec. Et je me sens bête, mais qu'est-ce que vous me faites du bien, Sana, de votre gentillesse, de votre... Moi, j'entendais les informations, mais ça fait peur.
C'est pour ça que, franchement, ce serait dommage de se priver d'affection comme ça et de moments aussi.
C'est pour ça que je me suis permis de vous appeler.
Vous avez très bien fait.
Parce que j'ai dit un petit peu de tendresse dans ce monde.
Absolument. Puis vous nous avez envoyé de très belles images. Donc un grand merci Gisèle. Surtout, vous ne raccrochez pas. On vous met en contact. Enfin, en tout cas, on va vous mettre en contact avec des personnes qui vous ont laissé des numéros de téléphone afin de pouvoir échanger. Et vraiment, renseignez-vous en tout cas auprès de... ou même peut-être que ces personnes vont vous donner...
De la mairie peut-être.
Oui, absolument. Ou même vraiment de vous faire identifier. Faites-vous identifier aussi auprès des pharmacies avoisinantes qui peuvent peut-être également être dans cette sympathie ou dans l'empathie de ce que vous faites pour ces animaux. On ne sait jamais. En tout cas, vraiment, vous, tentez-le. Tentez-le, Gisèle.
Mais, franchement, c'est gentil.
D'accord.
Merci, Sana.
Mais je vous en prie.
Vraiment, je vous écoute souvent, enfin, quand vous remplacez Sabine, je ne sais pas. Mais j'adore votre émission et je m'endors avec.
Merci
voilà.
de votre fidélité, Gisèle. Prenez soin
merci.
De vous et de vos chats.
Merci. Oui, merci, Sana.
Au revoir.
Au revoir.
Poursuivons l'émission avec Eric. Bonsoir Eric. Eric, est-ce que vous êtes là ?
Oui, je suis là, bonsoir.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci.
Qu'est-ce qui vous arrive, Eric ?
Avant d'apporter mon témoignage, je souhaite remercier Europe 1 et la Libre Antenne de permettre à des anonymes comme moi de pouvoir s'exprimer et raconter leurs problèmes du moment. Je trouve que c'est plus que nécessaire.
Oui, c'est une effectivement, c'est une tribune ouverte qui permet vraiment de libérer la parole, comme nous le rappelons souvent avec Olivier Delacroix et Sabine Marin. Donc ce moment est à vous. Nous sommes...
J'ai l'occasion d'écouter régulièrement et les quelques conseils que vous pouvez donner, vous, vos collègues, aux auditeurs qui vous appellent, m'ont parfois été utiles. Donc je me suis... Et aujourd'hui, de vous appeler.
Merci de votre confiance.
Alors, je vous appelle parce qu'en fait, ça fait donc 23 ans que je suis marié avec mon épouse. Et je suis à ma demande en instance de divorce pour une situation assez compliquée. En fait, il m'a fallu... presque 23 ans pour me rendre compte que je faisais ma vie avec une perverse narcissique.
Ah. Alors. Perverse narcissique. C'est très bien. On vous écoute. C'est vrai que j'ai toujours, je mets toujours un bémol sur le terme pervers narcissique qui est très souvent utilisé.
Moi-même, pendant de nombreuses années, j'ai mis un bémol là-dessus parce que je n'avais pas envie de faire ce constat-là. Mais malheureusement, depuis mon annonce, l'annonce que j'ai faite de mon désir de me séparer de mon épouse, son comportement ne fait que confirmer, malheureusement, ce que je craignais.
Alors,
notamment...
racontez-nous, Eric. Parce que c'est vrai que très souvent, en plus, c'est un cliché, que comme on les aime tant, le pervers narcissique, très souvent, c'est l'homme. Et là, c'est une femme.
Oui.
Alors, racontez-nous. Qu'est-ce que vous avez subi ?
Alors, qu'est-ce que j'ai subi ? En fait, j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur le sujet, notamment des ouvrages apparemment d'une spécialiste dans le domaine, Isabelle Nazar Haga. Je ne sais pas si vous connaissez ces ouvrages. Et le livre qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est un livre qui s'appelle « Les parents manipulateurs ». Et en fait, ce que moi, j'avais du mal à percevoir... quant à l'attitude de mon épouse à mon égard, malheureusement, je le percevais par rapport à son attitude, par rapport à ma fille, à notre fille unique, qui est arrivée dans notre vie après de nombreuses fausses couches et par adoption. Donc une enfant qui avait déjà son histoire avant notre rencontre. Et... qui, je pense, avait probablement... probablement encore plus besoin de l'attention et de l'affection de ses parents que n'importe quel enfant.
Oui.
Et malheureusement, l'amour que sa maman aurait dû lui donner ne m'a jamais paru évident. Et voilà, il s'est passé quelque chose le jour de la fête des mères. Enfin, c'est un jour plus que symbolique. Les concernant, quelque chose de, à mes yeux, complètement dramatique et qui m'a fait prendre la décision de me séparer de mon épouse et de protéger ma fille parce que ça en est arrivé à un stade voilà, il n'y a pas possibilité de faire machine arrière et d'arranger les choses, quoi.
Et en fait, Eric, est-ce que donc c'était elle était elle vous faisait culpabiliser, elle était dans le mensonge également, elle vous dénigrait.
Je vais pas passer je vais pas vous faire la liste de tout ce que j'ai pu entendre.
Ouais.
Mais bon, ça a été jusqu'à laisser sous-entendre à des proches, des amis, que j'entretenais des relations incestueuses avec ma fille, que j'avais des relations extra-conjugales, que, enfin, bref, quoi, elle a fait un portrait de moi qui ne correspond rien à la réalité. Les personnes qui me connaissent suffisamment savent que je ne suis pas du tout celui dont
qu'elle
décrivait.
Oui.
Mais voilà, donc. Enfin, c'est très compliqué. C'est très difficile d'en prendre conscience parce que, je vous dis, il m'a fallu plus d'une vingtaine d'années pour me rendre compte vraiment qui je partageais ma vie.
Oui.
Personne pour qui j'ai, je vais pas dire sacrifié parce que, apparemment, on fait pas de sacrifice, on fait les choses de manière naturelle parce que ça nous semble évident.
C'est vrai.
Mais c'est terrible. Et le plus terrible dans tout ça, c'est que malgré la gravité des choses qui se sont passées à mon égard comme à l'égard de ma fille, aujourd'hui, il y a une sorte de retournement de situation parce que, d'après ce que j'ai compris, les manipulateurs, les pervers narcissiques manipulateurs ne s'arrêtent jamais. Tout ce qui est bon pour détruire l'autre est utilisé, utilisable et utilisé. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une épouse qui a réussi en un mois et demi de temps à retourner ma fille contre moi, alors que tout le monde. C'est limite quelque chose d'évident aux yeux de 99% des gens qui nous connaissent et qui nous fréquentent. Mais c'est hyper complexe, quoi, hyper compliqué.
Vous avez démarré cette instance de divorce depuis maintenant combien de temps, Eric ?
Quelques jours après la fête des mères.
Ah oui, après la fête des mères, donc ça devait être en juin.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est juin.
Fête des mères le 7 juin. J'ai verbalisé mon souhait de me séparer de mon épouse quelques jours après. En fait, le jour de la fête des mères, ce qui s'est passé, je me suis absenté moi-même pour aller porter un bouquet de fleurs à ma propre mère. Et en mon absence, il s'est passé quelque chose de relativement dramatique. Et quand je suis rentré, j'ai retrouvé ma gamine en pleurs dans sa chambre. Qui s'est jeté dans mes bras en me disant j'ai voulu sauter par la fenêtre tellement sa mère était harcelante et c'est assez puissant, quoi, assez violent.
Mm.
Et quelques heures après, mon épouse, puisque je suis à ses yeux le sauveur de sa fille, et que évidemment je prends fait et cause pour elle et que je ne l'écoute jamais elle. Elle est devenue violente physiquement à mon égard comme à l'égard de ma fille, donc
oui.
Je me suis interposé. J'ai été mordu à sang, elle m'a craché au visage et ma fille, voyant cette scène de violence, a pris un couteau avec l'intention de se le foutre, se poignarder, quoi. Donc moi, j'ai sauté sur la main de ma fille pour éviter qu'elle fasse plus grosse bêtise et mon épouse, elle a même pas réagi. Sa seule réaction, ça a été d'aller dans un tiroir pour prendre des cachets et faire celle qu'elle est suicidée, pour attirer l'attention sur elle et même pas avoir un geste ou un regard d'attention pour sa fille qui était sur le point de se foutre en l'air.
C'est très violent ce que vous nous racontez. Hein.
Oui. Ouais. C'est hyper violent, hyper violent. Alors, moi-même, je ne vais pas vous raconter ma vie, je vais laisser la place à d'autres auditeurs, mais je n'ai pas eu une enfance particulièrement facile. J'ai été abandonné par mon père biologique que je n'ai jamais connu. J'ai été violé dans mon enfance par un membre de la famille, donc je suis, je pense, relativement fragile. J'ai suivi une psychothérapie où la personne qui m'a suivi au bout de quelques mois m'a dit qu'elle me trouvait suffisamment fort et assez de ressources pour pouvoir continuer à vivre sans problème et justement ne pas avoir à faire subir les conséquences de ce que moi j'avais vécu sur mes proches. Elle me sentait assez fort et solide pour continuer tout seul. Je pense que je ne veux pas dire qu'elle ne s'est pas trompée, mais voilà, je sais que je suis fort mentalement et que, mais il n'empêche que voilà, j'ai pas eu la clairvoyance suffisante pour me rendre compte de ce que ce que mon épouse me faisait subir et ce qu'elle faisait subir à ma fille, quoi.
Ouais, c'est tout le principe du pervers narcissique, hein. Ce sont des machines à détruire et et donc la manipulation, c'est vraiment, c'est le César, hein, franchement. Vous avez un avocat, certainement. Est-ce que vous lui avez parlé de la situation pour protéger votre fille aujourd'hui?
Oui, alors tout le monde, mon avocat, oui. Mes proches, même les proches, les propres frères et sœurs et parents de mon épouse. Comprennent parce que moi j'ai rencontré mon épouse, je ne savais pas exactement ce qui avait pu se passer avant notre rencontre, mais ces derniers mois j'ai eu l'occasion d'échanger avec certaines de ses sœurs notamment, qui m'ont fait comprendre que malheureusement c'était d'une certaine manière génétique, c'était dans les gènes, c'était inscrit dans les gènes de mon épouse, elle avait un caractère assez particulier. Et que je m'en suis peut-être rendu compte tardivement, mais que ça n'étonnait personne, en fait. Le comportement de mon épouse n'étonne personne. Et ce que j'ai pu raconter, ce que je vous raconte, pour ceux qui la connaissent, n'étonne personne.
Oui, d'accord.
Alors, elle a eu un pouvoir assez destructeur à mon égard auprès des personnes, des personnes qu'elle ne côtoyait qu'elle, qui ne me connaissaient pas.
Oui.
Donc, elle a été dépeindre un tableau comme quoi j'étais un homme violent, laisser sous-entendre que j'avais des relations incestueuses avec ma fille.
Oui, c'est ce que vous disiez. Et justement, là, ça va être pour vous, Eric, le vrai parcours du combattant. Se séparer d'un pervers narcissique, déjà, ne serait-ce que d'envisager la séparation, c'est déjà très énergivore. C'est très compliqué, à la fois, mais vraiment quand je parle d'énergie, c'est parce que psychologiquement, c'est compliqué de se détacher de son bourreau, entre guillemets. Ensuite, forcément, comme vous échappez à votre bourreau, ça n'est pas possible. Hein. Donc, clairement, vous allez entendre des choses absolument immondes vous concernant. Donc, c'est pour ça que je parle du parcours du combattant. Là, ça n'est que, je dirais, le début. Mais il faut vous armer également psychologiquement, au-delà de l'aspect, en tout cas, défense avec votre avocat. Mais vous-même, vraiment, je vous invite, en tout cas, à voir un thérapeute. Ça n'est pas une obligation d'en voir un toutes les semaines, mais une fois par mois, c'est... c'est intéressant pour vous, en tout cas, parce que ça va vous permettre, en tout cas, de pouvoir verbaliser tout ce que vous vivez, au-delà du sport. Mais c'est important pour vous. Et puis, je pense toujours à votre fille, parce que là, elle va se retrouver entre vous deux. Et ça va pas être facile pour elle non plus.
Ben, le problème, c'est que déjà, l'adolescence, c'est pas une période facile.
Non plus.
Étant donné son histoire, le fait qu'elle soit adoptée et qu'elle a évidemment connaissance de son histoire, je suppose qu'elle a beaucoup d'interrogations à ce niveau.
Oui.
Et puis là, comme je vous dis, depuis un mois et demi, alors suite à ce qui s'est passé le jour de la fête des mères, il y a eu une absence totale de communication entre ma fille et sa mère. Donc rien, ma fille, quand sa mère rentrait dans la pièce, elle partait ou elle se bouchait les oreilles, elle ne voulait pas du tout communiquer avec elle. Et comme par hasard, le jour où j'avais rendez-vous avec mon avocate, c'est la première fois où ma fille et sa mère ont fait une sortie commune.
Mmh.
Ma femme a enfin accepté, après 8 ans d'assistance et de refus de sa part, a enfin accepté que ma fille prenne un chien, parce que ma fille, je pense, avait besoin d'un peu d'affection et de porter un petit peu d'attention et d'amour, vu qu'elle est fille unique en plus, à un animal, entre autres. Ma femme était contre, c'était un refus catégorique de sa part d'avoir un animal, un chien à la maison. Là, comme par hasard, elle a accepté l'idée du chien. Elle a jamais pris elle est en temps partiel, mais elle prenait le vendredi et non pas le mercredi pour être avec sa fille, pour pouvoir faire ce qu'elle avait envie de faire. Là, comme par hasard, depuis la rentrée scolaire, elle prend ses mercredis. Enfin, personne n'est dupe. Tout le monde se rend bien compte que c'est dans le but, on va dire, d'acheter sa fille, de se montrer présente pour sa fille et de la monter contre moi. Et ça marche, malheureusement, ça marche.
Surtout, restez bien en contact avec votre fille, justement. Hein. C'est important qu'elle ne se sente pas abandonnée.
C'est ce que j'essaye de faire au quotidien.
Oui, oui, n'essayez pas, faites.
quand je dis ce que j'essaye, c'est ce que je fais au quotidien.
Oui, oui. Ouais.
Le problème, c'est que... Voilà, ma fille et moi, tous nos proches, tous nos amis, les voisins, etc., ont toujours qualifié la relation que j'ai avec ma fille de forte, quoi. Mmh. Enfin, c'est quelque chose qui est évident, qui est limite palpable. C'est quelque chose de très fort. J'en étais persuadé jusqu'à le 31 août, rendez-vous avec mon avocat, premier rendez-vous avec mon avocat où les choses se sont complètement retournées contre moi et ma fille. Alors peut-être, je l'excuse, je la comprends. Ça fait 14 ans qu'elle attend un peu d'attention et d'amour de la part de sa mère.
Mmh.
Bon, alors, elle a l'impression qu'elle lui donne du temps, de l'attention, elle accepte l'idée du chien, etc. Enfin, donc, elle en bénéficie, et du coup, celui qui passe pour le méchant, c'est papa, quoi. Moi qui avais pris la décision, entre autres, de divorcer de mon épouse pour protéger ma fille, parce que, je vous dis, voir votre gamine avec un couteau dans la main, dans le ventre.
C'est terrible. D'ailleurs, nous avons reçu un SMS de Clotilde qui dit « Terrible histoire qui brise le cœur » et penser que la jeune fille est avec cette femme abominable, j'espère que justice sera faite, courage. C'est Clotilde qui vous envoie ce SMS. Et moi, je repense à cet auditeur qui nous a contacté avant-hier. Je ne sais pas si vous nous avez écouté ce week-end, mais ce monsieur, donc, malheureusement, a une santé très, très, très fragile et il a clairement une épée de Damoclès sur sa tête. Et 14 ans à ne pas avoir de nouvelles de sa fille. Et il l'a retrouvée lors de l'enterrement de sa mère, donc de la grand-mère. Et c'est des histoires qui sont absolument terribles, terribles. Alors qu'il était extrêmement fusionnel avec sa fille, vous voyez.
On a eu un parcours très 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 difficile, 9 fausses couches.
Ouais.
Voilà, on a dû passer par l'adoption pour devenir parent. Pour moi, la rencontre avec ma fille, c'est probablement le plus beau jour de ma vie.
Oui.
Je pensais que c'était le cas, également pour mon épouse. Malheureusement, voilà, la relation entre la mère et la fille ne s'est jamais réellement créée. Mmh. Mon épouse me reproche d'être celui qui n'a pas permis de lui donner sa place. Enfin, tout est rejeté. Je suis le responsable de tous les problèmes relationnels, on va dire, dans la famille. Enfin, voilà, c'est une culpabilisation permanente. Et puis, je pense qu'elle a, voilà, pour les lectures que j'ai pu faire des profils pervers narcissiques,
oui.
Elle a trouvé sa proie idéale, quoi. Mm. Fragile psychologiquement, je culpabilise pour un rien.
Vous, comment vous vous sentez aujourd'hui, Eric ?
Oh, aujourd'hui, je me sens complètement à la ramasse. Enfin, très, très compliqué pour moi. Très, très compliqué. Je me dis, j'ai pris la décision de me séparer parce que, voilà, je m'en rends bien compte que c'est nocif pour ma fille comme pour moi. Et 3 mois après cette prise de décision, vu le retournement de situation, la manipulation qu'il y a pu avoir de ma fille, enfin de mon épouse sur ma fille, je me dis, je me suis tiré moi-même une balle dans le pied. Je me retrouve limite... enfin, voilà, tout seul, abandonné. J'ai tout donné pendant 25 ans à mon épouse et 14 ans à ma fille. Et puis aujourd'hui, voilà, ma fille, du haut de ses 14 ans, qui comprend, enfin, qui a une perception à la hauteur de ses 14 ans, qui a une perception parcellaire, on va dire, de la réalité, du contexte, etc. Bon, ben, c'est moi qui suis le méchant, c'est moi qui veux mettre fin à une histoire. N'importe quel enfant ne souhaite pas que ses parents se séparent. Il a envie de vivre avec ses deux parents. En plus qu'elle, elle a été adoptée. Donc, voilà, ce qu'on représente pour elle, c'est peut-être plus encore que n'importe quel parent biologique.
Oh, que oui.
On est quelque chose de... Oui. On devrait être quelque chose de solide, un couple solide, etc.
Elle avait quel âge quand vous l'avez adoptée ?
Elle est arrivée toute petite, on a eu cette chance-là. Elle est arrivée, elle avait 3 mois.
Ah oui, oui, ça va. Ouais.
C'était une chance...
Effectivement.
On a eu énormément de chance. Oui. Elle serait arrivée, si elle avait 3, 4, 5 ou 10 ans, elle avait, en plus de son histoire, elle avait aussi probablement des souvenirs, là. Je ne doute pas qu'elle ait une empreinte, on va dire, de son histoire passée.
Ouais.
Et enfin, voilà, quoi.
Bon, donc la fête des mères, c'est le tsunami, mais vous sentez bien que les vagues sont encore... Enfin, que la mer est très, très agitée.
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait. On peut résumer les choses comme ça.
Bon,
oui.
Et c'est pour ça que je vous demandais comment était le bateau ou le radeau sur lequel vous étiez, donc comment... Est-ce que vous vous sentez, parce que vraiment, vraiment, je vous l'ai dit, il va falloir être très fort, comme vous l'êtes. Comment est-ce que vous envisagez la suite pour vous ? Comment vous vous projetez ?
Ben dans un premier temps, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la prise de conscience tardive que j'ai eu sur la personnalité, on va dire, de mon épouse. Moi, dans un premier temps, je souhaitais divorcer, demander la garde, non pas exclusive, mais principale de ma fille pour l'écarter de la nocivité de sa mère. Enfin, parce que c'était... Voilà, moi... Je vous dis, enfin, l'image qui me reste, c'est ma fille avec un couteau dans la main et ma femme qui réagit pas. Enfin, et 2 heures avant, mon absence, ma gamine qui avait l'intention de sauter par la fenêtre parce que elle en pouvait plus de la pression que lui foutait sa mère. Enfin, le jour de la fête des mères. Enfin,
c'est vraiment très très violent.
Tout est symbolique dans tout ça. Tout est symbolique. Mais maintenant. Je sais pas, j'avoue que je suis un peu perdu. Mon avocate me relance pour savoir quelles sont mes intentions. Je vous avoue que j'ai du mal à lui répondre parce que je suis Enfin, pour ceux qui me connaissent, là, c'est des propos que je tiens, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de foncièrement gentil, serviable, etc. Donc, je ne souhaite du mal à personne, et encore moins à la femme avec qui j'ai vécu pendant presque 25 ans, ni à ma fille ou quoi que ce soit. Donc,
mais vous ne ressentez pas de haine, en tout cas, vis-à-vis de cette femme?
Pas du tout, pas du tout. Moi, ce que je souhaite, c'est de me séparer d'elle, parce que voilà... Je ne la quitte pas parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je ne la quitte pas parce que... Voilà, je la quitte simplement parce que j'ai ouvert les yeux. Et voilà, ça fait des années que je ne suis pas heureux. Et je me rends compte, alors que je l'y ai cru pendant des années, que malheureusement, la relation entre elle et sa fille ne sera jamais... Enfin, je l'ai souhaité. Je, encore aujourd'hui, je fais tout pour que ça soit... quelque chose de positif, mais malheureusement, voilà, j'ai l'impression de me battre contre des moulins à vent et d'y laisser mon énergie, mes envies, mon... Enfin voilà quoi.
C'est normal.
Je me suis effacé dans des années pour... Voilà, j'ai pris sur moi, j'ai accepté beaucoup de choses, beaucoup trop de choses que n'importe quel homme n'accepterait pas de son épouse. Comme je l'ai dit à mon épouse, tu dirais pas le dixième à ton pire ennemi, tu te comporterais pas de cette manière-là vis-à-vis de ton pire ennemi. Elle s'est comportée comme ça à mon égard pendant des années, et moi je fermais à chaque fois la parenthèse en me disant voilà, on efface ça, demain...
Est un autre jour, et ça ira mieux demain.
Voilà, ça ira mieux demain. Demain.
Ah oui, non, c'est...
Les jours se sont enchaînés et le lendemain et le surlendemain étaient pires que la veille ou l'avant-veille. Donc voilà, je me reproche même, j'en arrive même à me reprocher de ne pas m'être rendu compte de ça plus tôt et du coup d'avoir été d'une certaine manière un peu complice, d'avoir laissé perdurer une situation qui était à la base déjà...
Alors ça, c'est tout le bon travail du pervers narcissique. C'est de vous faire culpabiliser. Vraiment, souvenez-vous que vous étiez sous une forme d'emprise et que là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est vraiment les conséquences du comportement du pervers narcissique. C'est de vous faire penser que tout est de votre faute. Donc, s'il vous plaît, Eric, vous avez été sincère. Et c'est ça le plus important. C'est ça que vous devez retenir. Et demain, vraiment, est un autre jour, mais pour vous. Là, c'est vraiment pour vous. Et donc, battez-vous. Si vous voulez récupérer votre fille, vous allez y arriver. Vous avez décidé de vous donner une nouvelle vie, une chance, une nouvelle vie. Allez-y. Le meilleur reste à venir, vraiment. Et ce qui est important, c'est de vous retrouver, de faire des choses que vous aimez, d'aller vers ce que j'appelle, moi, l'égoïsme sain, de penser à vous. Et ça, ça va être vraiment un travail au quotidien, votre estime de vous, pour aller vers la confiance. C'est important, donc tous les jours, faites quelque chose qui vous fait du bien pour vous estimer et reprendre confiance en vous, c'est primordial pour la suite.
J'entends parfaitement ce que vous me dites, mais j'approche la cinquantaine et depuis...
Faites-vous confiance, vraiment.
Presque 50 ans. Depuis presque 50 ans, j'ai le défaut, parce que pour moi c'est plutôt une qualité de penser aux autres avant de penser à moi.
Et bien justement, à partir de demain, ça va changer. En tout cas, un grand, grand merci Eric pour votre confiance. Merci de nous avoir vraiment confié avec beaucoup d'authenticité ce qui vous est arrivé. Et vraiment, tous nous vous souhaitons de pouvoir vous sortir de tout cela pour vous et votre fille. À bientôt
Eric.
Merci à
vous. Merci.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne, Sana Blanger.
écoutez Europe 1, la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous savez que nous sommes tous là pour vous apporter du réconfort, une écoute bienveillante sans jugement, une idée qui peut faire la différence. Et la suite vous appartient, et d'ailleurs à tout de suite.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sana Blanger.
Nous accueillons tout de suite Laurie. Bonsoir Laurie.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à la libre antenne.
Merci. Merci beaucoup.
Oh Laurie, est-ce que vous avez la possibilité de rapprocher votre téléphone parce que on vous entend? Mais alors, c'est tout doux comme ça.
C'est parce que je parle pas très fort peut-être.
Ah, voilà, là. Oui. Vous me rappeliez Charlotte Gainsbourg parce qu'en fait, ça parle comme ça.
C'est gentil, c'est une belle comparaison.
Ah oui, j'adore. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Laurie?
Écoutez, je vous appelle pour, on va dire, une peine de cœur.
Ah.
C'est un peu bateau, comme ça.
Mais non, 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 c'est jamais bateau. Jamais. Quand ça nous touche, c'est toujours très important. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde, c'est sûr, mais bon, et puis de temps en temps, il faut aussi penser à soi. Donc, une peine de cœur. Qui vous a fait du mal?
J'ai envie de vous dire, en soi, personne. J'ai l'impression que c'est moi qui ai fait du mal à quelqu'un que j'aime. C'est une histoire assez compliquée. Je sais pas, je vous raconte tout.
Racontez-nous, tout simplement, avec vos mots.
Alors, en fait, j'ai été pendant 3 ans avec un homme qui est plus âgé que moi. On a 17 ans d'écart.
D'accord.
Je l'ai rencontré il y a 5 ans. C'était mon professeur de dessin à l'école d'art. Mmh. Et on est très vite devenus amis et ensuite on est tombés amoureux. Et donc, on s'est mis ensemble, mais il était en couple. Et puis, finalement, au bout d'un an, il s'est séparé. Et donc, on a vraiment été ensemble. Mm-hmm. Enfin, on était vraiment ensemble, hein, mais voilà, disons qu'on n'était plus dans un triangle amoureux.
Oui.
Et donc, le démarrage n'a pas été facile, en fait, parce que donc il y avait cette histoire entre nous trois, et donc sa femme n'était pas au courant, et puis sa femme a été au courant, et ils se sont séparés, et ensuite pendant encore plusieurs mois, on a continué à se cacher, parce que moi je n'osais pas le dire à mes parents.
Vous aviez peur de quoi, Laurie?
J'avais peur du jugement de mon père.
Oui.
J'avais peur que ça détruise notre histoire aussi. Je pense que j'ai un lien particulier avec mon père et avec mes parents. Et donc, j'ai souvent eu l'impression que, quelque part, je devais obtenir leur approbation pour faire ce que je faisais, pour...
La petite fille.
Pour vivre, oui, voilà, exactement. Ouais. Vous avez mis le doigt sur le problème. Et donc, ça a été difficile pour moi. Finalement, je l'ai dit. Et en fait, il s'est avéré que mes peurs n'étaient pas fondées. Parce que mes parents ont accepté. Et ils étaient heureux pour moi si j'étais heureuse. Donc, mon compagnon Frédéric était aussi, je pense, impatient que je leur dise et qu'on puisse enfin se montrer au monde.
Oui.
On a vraiment eu une très belle histoire. On a une relation très forte. Je ne sais pas si je dois parler au présent ou au passé, parce que pour moi, tout ça est toujours vrai, en fait.
Et
on était, euh, on était, enfin, Moi, j'ai le sentiment qu'on était plein de choses, en fait. On était pas que des amants, on était des amis. Mmh. On était des partenaires dans le travail. Ça a été un mentor aussi pour moi. Il m'a donné beaucoup de confiance. Il m'a aidé à surmonter beaucoup de choses, beaucoup de problèmes que j'avais eus avant de le rencontrer.
Oui.
Et le problème, c'est que, en fait, très vite, on a eu des problèmes sur le plan affectif et sexuel parce que j'ai eu des expériences passées très très mauvaises avec les hommes.
Ah.
Oui. j'ai des traumatismes à ce niveau-là. On a abusé de moi parfois et j'ai toujours eu. J'ai un peu toujours eu des problèmes, en fait. J'ai été en dépression très jeune, à 16 ans. J'ai l'impression que j'ai fait que de passer par des vagues de dépression, en fait, et sortir la tête de l'eau et ensuite de replonger, puis de ressortir, de replonger avec la vie qui avance et puis les problèmes qui ne s'arrêtent pas. Et je crois que tout ça a beaucoup fait de mal à notre histoire parce qu'en fait, j'ai eu des flashs qui sont revenus et donc j'étais dans l'incapacité de lui donner de l'affection, de lui donner même de l'amour parfois, je pense.
Vous parlez sur le plan intime.
Ouais. Voilà, ouais.
Alors, par rapport à cette intimité, au départ, ça se passait bien. Et puis, si au fur et à mesure que vous êtes vraiment entré dans la relation, que ça s'est, estompé, entre guillemets, le désir, ou déjà dès le départ, c'était un peu pour vous compliqué?
Alors, je dirais qu'au tout début, alors, quand vous dites le tout début, c'est les premières semaines, les premières fois, ça a été très bien. En fait, c'est ce qui m'est un peu toujours arrivé, c'est qu'au début, ça va. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi, au bout d'un mois ou deux de relation avec un homme, je me sentais dégoûtée par moi-même.
Je comprends.
Dégoûtée par le sexe. Et donc là, j'entrais dans une phase de blocage et de rejet. Et pendant un an, on a tenu comme ça, je pense, parce que quelque part, comme on ne se voyait pas souvent, étant donné qu'on était cachés, ça n'arrivait pas forcément très souvent. Mmh. Donc en fait, ça allait. Et à partir du moment où
la relation s'est vraiment installée.
Oui, voilà. J'ai commencé. En fait, ça m'est tombé dessus. Hein. Mmh. J'ai eu des flashs. J'avais des flashs vraiment très, très nets de choses qu'on m'avait faites.
Oui.
Il n'y avait pas que ça. Je suis entrée dans une phase d'hyper insécurité et j'ai eu des. J'avais peur de tout. J'avais peur des hommes que je croisais dans la rue. Mmh. Je voyais des hommes à la place de lampadaires ou de buissons quand je sortais le chien le soir dans la nuit. J'étais terrorisée. J'étais suivie. Hein, j'ai été suivie par un psychiatre pendant plus de 10 ans.
Oui, vous me rassurez parce qu'avec. oui, voilà. Bon, j'imaginais en tout cas que vous êtes allé voir un ou des spécialistes pour traiter. Parce que pour vous, ça devait être un enfer, mais un enfer.
Oui, c'était. Oui, bah oui, c'est un enfer parce qu'en fait, vous aimez un homme, mais quand il est avec vous, parfois, vous en voyez d'autres et c'est terrible en fait. D'aimer quelqu'un et de ne pas réussir à lui montrer.
Vous lui montrez. Enfin, j'imagine que vous lui avez montré. Vous communiquiez, vous avez certainement parlé de ce qui vous est arrivé.
Oui, on en a beaucoup parlé. Oui. Vous savez, il a été très, très compréhensif, très à l'écoute, très, très patient. Il a été tellement patient avec moi. C'est comme si j'avais jamais réussi à surmonter tout ça. Et puis, il y a eu d'autres, Bien sûr, il y avait d'autres problèmes. Alors, il y avait le problème de la différence d'âge, je pense, dans les concrètement, qui, c'est-à-dire que moi, je suis encore étudiante, j'ai 29 ans, mais je suis encore étudiante parce que vous vous doutez bien qu'avec tout ça, j'ai pris du retard dans ma vie. Mmh. Et donc, lui, il travaille et on a été séparés depuis le début de notre histoire, on a été séparés par la distance. Donc, on était loin géographiquement, on l'est toujours. Donc, ça posait des soucis parce que, évidemment, je lui manquais énormément. Et puis, alors, moi aussi, bien sûr, j'avais peur de m'engager.
Et bien voilà, en fait, vous en êtes où aujourd'hui, Laurie, avec cet homme? Parce qu'on entend beaucoup d'émotions dans votre voix. Vous en parlez au présent, vous en parlez au passé.
Eh bien, j'en suis que. Alors, vous voyez, avant le confinement, en février. On s'est fortement disputé. C'est parti de plusieurs choses qui s'étaient passées avant, de la relation en elle-même, mais c'est aussi parti d'un événement particulier qui est en relation avec son ex-femme. Parce que, alors c'est pareil, elle a beaucoup souffert et je m'en voulais beaucoup d'avoir été actrice dans cette histoire. Et en fait, elle a pendant 2 ans, elle postait des choses sur Instagram qui me semble-t-il me visaient ou nous visaient lui et moi, et ça me faisait beaucoup de mal en fait parce que j'ai fini par le vivre comme du harcèlement moral, comme un acharnement. Et en même temps, quelque part, je la comprenais. Alors, j'avais pas trop quoi faire. Et en février, j'en pouvais plus, j'en ai eu marre. Et en fait, j'ai pété un câble. Et tout est retombé sur lui parce que j'ai eu l'impression qu'il ne prenait pas ma défense et qu'il sous-estimait l'impact que cette chose-là pouvait avoir sur moi et sur nous. Mmh. Mais bon, bien sûr, ce n'était pas notre seul problème et je pense que ce n'était même pas le plus important au fond.
Oui.
Et en fait, du coup, je l'ai quitté en mars, en plein confinement.
D'accord.
Je n'étais pas avec lui, hein, j'étais chez mes parents. Et on s'est disputé un soir au téléphone et ne sachant plus quoi faire. Et j'étais désemparée, j'en pouvais plus, je l'ai quitté. Et puis ensuite, on n'a pas vraiment perdu contact. Mais bon, c'était difficile et on s'est revus en mai. On a discuté beaucoup. Il m'a demandé pardon pour tout un tas de choses qui m'avaient blessée. Je ne sais plus si moi je lui ai demandé pardon et si je ne l'ai pas fait, je le regrette parce que j'avais aussi des raisons de lui demander pardon. Et en fait, de fil en aiguille, de mai à juin, on a repartagé des moments ensemble et on s'est retrouvés et un jour on s'est embrassés. Et du coup, on peut considérer que ça repartait en fait.
Oui.
Et ça repartait, mais une semaine après, moi je devais repartir à nouveau loin dans appartement, mmh. donc pour les vacances d'été, et là j'ai recommencé à avoir peur, à me sentir oppressée, à me sentir étouffée, à pas savoir si j'étais prête. Je savais que je l'aimais, je savais que j'aimais être avec lui, mais tout ça me faisait vraiment très peur. Mmh. Et en fait, sous la pression et l'angoisse, j'ai à nouveau mis de la distance et j'ai rompu fin juillet. Le mois d'août est passé, je pensais être sûre de moi, mais je pensais toujours à lui, et puis septembre, et puis là octobre, et en fait ça fait un mois que... Ça fait un peu plus d'un mois, mais bon, on va dire que, voilà, grosso modo, ça fait un mois où je sens au fond de moi que je regrette et que j'ai fait une erreur parce que je vous disais, c'est un lien très fort. C'est un homme que j'aime vraiment et que, avec qui j'ai je peux pas vous expliquer, en fait. J'aime tout ce qu'on était, en fait. J'aime tout ce qu'on partageait. J'aime tellement parler avec lui. J'aime tellement être avec lui.
Laurie, imaginez,
oui.
que c'est une amie qui vient vous raconter ce que vous nous avez raconté.
Mmh.
Qu'est-ce que vous lui conseilleriez ? Qu'est-ce que vous lui diriez ?
Je lui dirais que je lui dirais que tout n'était pas de sa faute.
Mmh.
Que j'aurais envie de lui dire que rien n'est perdu, mais là, c'est vraiment pas ce que je pense, moi.
Alors, effectivement, rien n'est perdu. Mais en revanche, il y a une priorité aujourd'hui, c'est de vous occuper de vous. Parce que ce soit cet homme ou un autre homme, vous vous retrouverez toujours dans cette situation si vous ne gérez pas le problème. Et le problème, c'est le passé qui, en tout cas, vient clairement entacher votre bonheur, votre équilibre, à la fois mental et tout le reste. Donc, il est nécessaire pour vous de revoir un thérapeute, de faire un travail de fond. C'était d'ailleurs l'introduction de la phrase d'Alfred de Musset, vous l'avez entendu ? Le cœur a beau mentir, la blessure est au fond. Et là, pour vous, la blessure est au fond. Et clairement, elle vous envahit et elle ne vous laissera pas, tant qu'elle est là, vous épanouir comme vous le souhaitez. Donc, pour vivre ou rencontrer l'homme de vos rêves ou vivre avec l'homme de vos rêves, il va falloir devenir la femme de vos rêves. Et devenir la femme de vos rêves, ça passe par être aligné avec vous-même. Et aujourd'hui, ce que vous avez vécu ne vous permet pas de vous épanouir. Vous êtes obligé de passer par là si vous souhaitez. Donc si c'est vraiment, vraiment ce que vous voulez, c'est-à-dire soit retrouver ou récupérer cet homme que vous aimez, vous devez passer par ça. Ou alors, ne serait-ce que pour vous, vous devez également vraiment prendre soin de vous. Parce que ce soit lui ou un autre, ce sera la même chose. Vous avez des images, vous nous avez dit, j'ai des images qui reviennent. Donc c'est un vrai traumatisme que vous avez vécu. Il y a plein de solutions qui s'offrent à vous. Vous avez l'hypnose, vous avez la sophrologie, vous avez la thérapie, vous avez l'EMDR. Vraiment, ça aujourd'hui c'est à votre portée et vous pouvez les utiliser pour aller mieux.
Vous savez, j'ai déjà fait de l'EMDR. J'en ai peut-être pas fait assez.
Peut-être pas, manifestement. C'est exactement ça. Peut-être pas assez. Mais vous êtes en capacité d'aimer. Ça, en tout cas, rassurez-vous. Voilà, de la sincérité, c'est possible. Vous avez un homme qui a été là, qui vous a aussi prouvé qu'il n'y a pas que l'intimité qui forge ou qui permet d'être en couple, vraiment. Il y a d'autres choses, vous l'avez dit, c'était à la fois un amant, un ami, certainement un confident. Mais là, il faut que vous preniez soin de vous, c'est vraiment primordial. Donc,
et pour lui, je fais quoi alors ?
Pour lui, il faut déjà être très honnête, comme vous l'avez été, mais encore une fois, c'est si vous avez envie de lui demander pardon, faites-le. Mais pour obtenir quoi derrière ? C'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce que vous voulez, vous ? Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes vraiment en capacité de pouvoir apporter une réponse ? Jusqu'où, Laurie, êtes-vous prête à aller pour cet homme ? Et pour vous, encore une fois ?
En fait, c'est vrai que j'avais prévu de reprogrammer des séances de MDR avec mon psy.
Oui.
Et le truc, c'est que c'est pareil. Mon psy, on est à distance, donc je le vois pas très souvent, mais ça impliquera peut-être de changer du coup de psy, je pense, parce que ce sera plus simple.
Alors, j'adore parce que ça me permet de placer ma petite phrase que j'aime beaucoup quand je reçois certains de mes patients. Quand on ne veut pas, on cherche des prétextes, et quand on veut, on trouve des solutions. Aujourd'hui, il y a la téléconsultation. Donc même si votre psy est loin, ça n'est plus aujourd'hui une excuse.
C'est vrai, mais alors là, par contre, vous me l'apprenez parce que j'ai fait beaucoup de téléconsultations avec lui pendant le confinement et j'ai eu l'impression que ça s'était arrêté justement après.
Non, ça continue.
Il prenait plus de téléconsultations.
Non. Ah, peut-être, mais en tout cas, si ça n'est pas lui, ça peut être un autre, vraiment. Et avant tout, il faut qu'il y ait du feeling avec le thérapeute. C'est très, très important. Alors, on a reçu un SMS pour vous. On vous sent très malheureuse. Il faudrait un peu penser à vous. Vous êtes très jeune. Vous êtes très jeune encore. Essayez de tirer un trait sur ce passé. Pensez à votre avenir. Rien ne vous empêche de le rappeler, mais faites attention à vous et évitez le brouillon. Alors après, bon, ça s'est coupé, mais voilà, je vous ai lu. Je ne sais pas de qui ça vient, mais voilà, c'est un SMS qui est arrivé pour vous. Donc je pense qu'on serait plusieurs à vous dire, Laurie, il faut absolument faire quelque chose pour vous, de ne pas vivre constamment ces dépressions à répétition. Voilà, je pense que c'est, j'ai envie de dire, on s'est tout dit là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que, encore une fois que vous aurez réentamé ces consultations, vous trouverez, ce sera beaucoup plus clair pour vous.
Oui, peut-être.
Autre SMS qui vient d'arriver. Laurie, courage, vous êtes une femme douée d'amour. Blessée, lucide, ne doutez pas de votre capacité d'aimer. Et c'est Rémi qui vient de vous envoyer cet SMS. Mmh. Je suis complètement d'accord avec Rémi. Ne doutez plus. Oui. Laurie ?
Oui.
Donc demain, rendez-vous ?
Oui.
Hein ?
Oui, carrément.
Ah ouais, moi si j'étais près de vous, je vous dirais, allez Laurie, on y va, go. Surtout pour vous, vraiment, c'est important. Vous n'avez que 29 ans, vous avez encore toute la vie devant vous. Imaginez toutes les rencontres encore que vous pouvez faire. Et si c'est lui, bah vous, il sera là. Rassurez-vous, il sera là, Laurie.
J'espère parce que j'ai vraiment... Ces dernières semaines, j'ai vraiment pris conscience des choses dont j'avais besoin dans ma vie pour être heureuse. Et j'ai souvent pensé en fait que la vie de couple c'était la prison. Que,
non.
Que en fait, je voyais tout ça en noir. Et je crois que je me suis complètement trompée parce que j'ai pas du tout envie de vivre seule. J'ai pas envie de vivre sans lui, déjà. Et, enfin, j'ai pas envie de... Vous voyez, par exemple, je lui ai refusé qu'on s'installe ensemble. Alors que je déteste être seule chez moi, en fait.
C'est vraiment ce que je vous dis. La thérapie va vous apprendre à être heureuse seule, Laurie. Et le fait d'apprendre à être heureux, à se procurer du bonheur, de la joie, vous verrez que ce sera beaucoup plus clair et quand vous irez ou quand vous retrouverez cet homme, ce sera certainement le début d'une nouvelle histoire, vraiment.
Ouais.
Là, c'est pas possible. Votre passé est toxique pour vous. D'accord ? Bon, vous nous donnerez de vos nouvelles ?
Oui, d'accord.
Je compte sur vous.
Ouais.
Bon courage, Laurie.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Poursuivons l'émission, il nous reste juste 25 minutes avec Arnaud. Bonsoir Arnaud.
Allô, oui, bonsoir.
Bienvenue Arnaud.
Merci. Alors, je ne sais pas si on vous a mis au courant un tout petit peu.
Oui, on m'a dit Arnaud est dans sa voiture.
C'est ça, mais là je me suis arrêté. Donc,
voilà, vous me rassurez parce que j'allais dire non, hein. On ne conduit pas.
Oui, non, mais je l'ai en Bluetooth, donc tout va bien. Après, non, je me suis arrêté.
D'accord. Donc, vous êtes arrêté quelque part en France.
C'est ça.
Voilà. Et qu'est-ce qui vous arrive, Arnaud ?
Mais en fait, j'aimerais parler un tout petit peu d'une histoire, je crois, enfin, un tout petit peu comme Laurie, je crois, mon histoire. Mais c'est un peu ambigu, au fait. C'est-à-dire que je me suis engagé avec quelqu'un.
Oui.
Pas que c'est, mais tout.
Depuis combien de temps ?
Bah, ça fait 2 ans à peu près.
Mm-hmm.
Et avant ça, on a été ensemble pendant 3 ans et demi, 4 ans. Et le truc, c'est que du jour au lendemain, on s'est quitté. Voilà. Et le truc, c'est que on est toujours lié par ce pacte-là, on va dire, et qui fait que je sais pas du tout quoi en faire, où mettre la tête. Et c'est vrai que ça me fait un peu souffrir, on va dire.
Alors, Arnaud, je ne comprends pas ce que vous voulez dire par il y a entre nous ce pacte. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ?
Y a toujours ce lien, pourtant on est séparés en fait.
Alors vous êtes séparés depuis combien de temps ?
Ça fait des mois, ça fait depuis le mois de mai ou...
Mai dernier ?
Ouais.
Et quand vous parlez de lien, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire que il y a toujours les frais que... à payer ensemble, il y a toujours plein de choses, parce que d'ailleurs, les affaires, on les a mis dans un endroit, donc il y a aussi ça à payer et tout. Donc
là, vous nous parlez de liens matériels.
Matériel, oui.
C'est matériel, là.
Surtout, oui.
D'accord, moi je pensais que c'était plus un lien affectif, émotionnel.
Pas du tout, parce que finalement, je pense qu'on s'est vraiment détaché l'un de l'autre. Pas trop moi, parce que j'y pense souvent. Mais c'est vrai que quand je lui parle, c'est plus ce que c'était, quoi.
Vous revoyez de temps en temps ?
Malheureusement, non. Il y a quelque chose qui m'a quand même... on va dire, qui m'a vraiment choqué, c'est le fait que ses parents, en fait, ont toujours gardé un lien avec moi. Et c'est ce qui me... On va dire que c'est un peu pour ça que j'ai pas lâché l'affaire. C'est un peu pour ça.
Bon, là, en fait, c'est un petit peu confus. Oui, c'est un petit peu confus. Vous nous donnez des infos en pop-corn. Pouk, 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 ça saute de tous les côtés. Non, mais on va tâcher de recadrer tout ça pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc, vous avez rompu, vous nous avez dit, du jour au lendemain avec votre ami. Du jour au lendemain. Pour quelle raison vous avez rompu déjà ? Est-ce que vous savez vous-même pour quelle raison ?
Je sais pas si c'est l'influence des amis ou le confinement ou j'en sais rien. En tout cas, en fait, son prétexte, c'était simple, c'est qu'elle avait pas de... Après, c'est vrai qu'elle n'a pas connu beaucoup de personnes. Et c'est qu'elle me disait que qu'elle n'avait pas de vécu, en fait.
D'accord. Et
voilà.
Donc ça, c'est la raison
Oui, c'est principalement la raison. Et quand je l'ai entendu, cette excuse-là, je me suis dit que j'allais partir, que j'allais lui laisser à son choix.
Ouais.
C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs.
Ce que vous avez fait. D'accord.
Voilà.
Bon. Alors, en quoi la situation est ambiguë pour vous?
C'est ambigu parce que ça ne me permet pas de me reconstruire, en fait.
D'accord. Ok.
De passer à autre chose.
Là, c'est... Pour quelle raison, Arnaud?
Parce que j'y pense constamment. Là, par exemple, là, je vais changer de métier, donc et pourtant, on avait des projets et tout.
Mmh.
Et c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que je change de métier. Et là, maintenant, je me retrouve seul face à ce choix, alors qu'on avait des projets derrière. On avait plein de choses pour... Parce qu'en fait, si vous voulez, on habitait ensemble dans une ville où je ne travaillais pas. Donc, je faisais l'effort de monter à chaque fois en fin de semaine pour venir, voilà, pour qu'on ait une histoire.
D'accord.
Et voilà. Et là, maintenant, je ne fais plus ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment. On n'a plus de contact. Je ne sais pas du tout.
D'accord.
La dernière fois, la seule chose que j'ai eue comme nouvelle, c'était que... Enfin, qu'elle a eu des soucis avec sa voiture, mais rien de plus, quoi. Enfin, le lien s'est brisé, quoi.
Et quand vous y pensez, c'est plus le côté... J'aimerais bien me remettre avec elle, ou c'est plutôt vraiment en lien avec le lien matériel, c'est-à-dire le Pax, l'appartement. Qu'est-ce qui vous préoccupe, en fait?
L'avenir, parce que quand on s'est revu, c'est comme si il y avait encore espoir. Ça faisait un moment qu'on ne se partageait plus grand-chose, et là, je la revois, on discute, on parle pendant des heures et des heures. En plus, c'est comme si on regrettait un tout petit peu ce changement-là. Et je repars comme ça, et je ne sais pas si y aura une suite ou pas. Parce que c'est vrai que des histoires un tout petit peu... je pourrais en avoir, mais c'est comme si ce truc-là ne me permettait pas de changer, d'avoir une autre histoire, en fait.
Alors, vous avez reçu un SMS de Rémi.
Oui.
Merci Rémi, très actif ce soir, qui dit « Si vous ne tenez plus à cette personne, il faut couper les ponts et résilier le Pax et vous libérer de ce poids. » Donc, est-ce que, si on réagit par rapport au SMS de Rémi,
oui.
Est-ce que vous tenez encore à cette personne?
Je ne sais pas si c'est un attachement sentimental ou c'est... je ne sais pas du tout. En tout cas, ce qu'on a été, c'était quelque chose de vraiment formidable. En fait.
Vous semblez dire que oui, quand on vous écoute, Arnaud. Vous semblez quand même dire que vous y tenez, puisque vous avez vous avez parlé d'espoir. C'est quand je l'ai vu la dernière fois. Voilà, on a beaucoup échangé, et puis quelque part, c'est comme si, en tout cas, il y avait de l'espoir que ça reparte.
C'est ça.
Donc, s'il y a de l'espoir, c'est que vous en avez envie, en tout cas.
Oui. Ça c'est sûr. Après, alors j'en ai parlé une fois à une amie.
Mm-hmm.
Elle m'avait dit que je n'allais pas changer les choses si j'y pensais encore. Il me fallait, en fait, me permettre d'avoir une autre histoire, de changer de vie carrément. Mais c'est comme si c'était une trahison, je ne sais pas.
Oui, donc vous êtes vraiment... Vous avez parlé de lien, vous l'avez verbalisé, je vous confirme. Pour vous, l'histoire n'est pas terminée. Est-ce que vous lui en avez parlé ou pas à votre amie? Est-ce que vous lui avez dit que voilà, ça fait des mois que c'est terminé avec elle, mais que pour vous, vous aviez encore cet espoir?
Alors non, non. Je me le suis interdit en fait.
Pour quelle raison?
Je pense que ça me mettrait, je sais pas, ça me mettrait, ça toucherait un peu trop mon ego en fait, parce que déjà il est en miettes là, mais avouer ça sans que l'autre ne pense pas la même chose ou le pense, ça, je pense que c'est pas une bonne idée. En fait. Et c'est pour ça que je me l'interdis de le dire.
Alors l'ego, on l'oublie. Sincèrement, c'est le pire ennemi, que ce soit au travail, en amitié ou en amour. Franchement, non. Ça n'a pas sa place. Pas là, en tout cas. Pas quand on en a envie, pas quand on souffre, pas quand on vraiment. Ensuite, quand on vit une rupture, ce qu'il y a de plus difficile et de douloureux, c'est de lâcher prise sur les projets que l'on a pu... Justement, tous les projets que l'on a écrits avec l'autre, les rêves que l'on a construits éventuellement également avec l'autre, c'est ça qui est compliqué. De se dire, ben, ouais, ça n'arrivera jamais. Ok ? Donc, clairement, il y a déception et puis il y a deuil. On doit faire le deuil de tous ces projets, de tous ces rêves. Là, c'est peut-être prématuré. Manifestement, vous avez encore cet espoir. Alors moi, contrairement à votre ami, forcément, je vais aller à contre-courant, puisque c'est aussi peut-être ce que vous êtes venu chercher en nous appelant. J'aurais tendance à vous dire, il faut d'abord communiquer, dialoguer avec cette femme que vous connaissez, avec qui vous avez passé 3 ans, de lui dire véritablement ce que vous avez sur le cœur, de l'exprimer clairement, et de lui demander comment est-ce qu'elle envisage les choses pour la suite.
Et si... J'en avais parlé, je ne vous coupe pas.
Ouais, allez-y Arnaud.
J'en avais parlé 2 mois en arrière, je crois. Vraiment, j'ai été sincère et tout. Je lui ai envoyé un message, je l'ai même appelé, en lui disant que ce que je pensais vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'avait dit que peut-être cette relation n'était pas pour elle pour l'instant, qu'elle n'était pas prête. Et j'en avais parlé un tout petit peu aussi à la famille. Ils m'ont dit, vivez vos vies. Vivez vos vies. Si vous devez vous retrouver, vous allez vous retrouver.
C'est exactement ce que j'ai dit à Laurie tout à l'heure. Effectivement, si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Mais là, manifestement, ce n'est pas ce que j'entends. Donc, moi, j'ai tendance à dire, s'il y a encore une possibilité de rattraper le coup, eh bien, tentez-le, mettez votre ego de côté et tentez-le. Et puis, au moins comme ça, si la porte est vraiment fermée devant vous, ou si éventuellement on vous dit, je te donnerai le code plus tard, oui, eh bien là, vous aurez peut-être moins de culpabilité et plus de scrupules, à aller voir, à vous donner une chance avec quelqu'un d'autre. Et puis, si c'est vraiment elle, rassurez-vous, vous retrouverez Arnaud.
Je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. En ce moment, je suis paumé, en fait.
C'est normal. Il y a votre rupture. Il y a également la perte des repères. Et puis, il y a manifestement quelque chose qui vous arrive sur le plan professionnel.
Oui.
Donc, c'est... Ouais, il y a beaucoup de choses qui bougent là actuellement dans votre vie. Donc, c'est compliqué de trouver cet équilibre en ce moment, cette stabilité qui vous permet de pouvoir avoir les idées claires, d'avoir une perception qui peut vous aider à solutionner les choses.
Je ne sais pas franchement si c'était la bonne personne ou pas. Alors, parfois, tu me le dis, et c'est vrai que c'est plus réciproque.
Vous avez une question qui vient d'arriver de la part de Lila. Je vais vous la lire. Il est surprenant que cette femme n'ait pas pris l'initiative de rompre le pax et laisse installer la confusion. Quel est son intérêt?
Justement, je ne vois pas. Il lui suffit juste d'aller à la préfecture et de faire la démarche seule, si elle le veut. Mmh. Et elle ne le fait pas. C'est comme si elle attendait que je le fasse, au fait.
Et vous, vous ne voulez pas vous résilier à le faire?
Non, parce que je pense que cette situation, je ne l'ai pas choisie. Et je pense aussi que ce n'est pas à moi de courir derrière à chaque fois, en fait.
Mais courir, c'est-à-dire?
C'est assez... on va dire que ça... Que depuis tout le temps qu'on a passé ensemble,
ouais.
C'est vrai que j'en ai fait pas mal des efforts et je ne veux plus en faire, en fait.
D'accord, mais là c'est peut-être plus votre fierté qui parle, parce que franchement, vous pourriez vous débarrasser de tout ça, non? Vous auriez un souci en moins?
Je pourrais, oui.
Bah ouais. Pourrais.
Bon. Mais c'est le cœur qui me dit de ne pas le faire.
Oui, ça, je crois qu'on avait bien compris. Hein.
C'est le cœur qui me dit.
Oui, malgré tout, vous avez vraiment envie. C'est pour ça, on peut vous dire de zapper, d'aller chercher quelqu'un d'autre. Moi, déjà, je vous dis merci. Merci de ne pas vous lancer dans une histoire qui serait plus d'utiliser une personne qui ne mérite pas et qui serait une femme pansement. Donc, voilà, déjà, vous sauvez... quelques petits cœurs, donc moi je vous dis merci. Ensuite, vraiment, vraiment, si vous sentez qu'il est encore possible, en tout cas de votre perception à vous, eh bien allez-y, vous mettez votre ego de côté, vous mettez votre orgueil, votre fierté, et puis vous retentez. Et puis là, si pour le coup, franchement, elle vous dit non, vous rompez le pax. Et vous vous donnez une chance, une autre chance.
J'espère que ça va marcher. Je l'espère. Je suis quelqu'un de très positif, en fait.
Ah oui, ça s'entend.
Le problème,
très volontaire. De très volontaire.
Oui. Et le problème, c'est que de son côté, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de manque d'estime de soi, beaucoup de manque de confiance. Et c'est vrai que quand je l'ai connu, c'est moi qui lui ai un peu tout appris, en fait. On va dire, dans la vie de tous les jours, s'épanouir, faire du sport, parce que j'aime bien faire du sport, j'en fais pas mal. Et c'est moi qui lui ai appris tout ça. Et là, maintenant, c'est comme si, en fait, je perdais quelque chose que j'avais créé. C'est un peu ça. Et pourtant, je me dis qu'en fait, une personne, c'est pas un objet.
Ben non. Justement, là, j'étais un peu... j'étais en train de me dire, mais il est vraiment en train de... Est-ce que vous avez conscience que vous êtes en train de nous dire que c'est peut-être presque votre chose? Vous l'avez fabriquée. Et vous l'avez tellement bien fabriquée que... Ça y est, elle vous dit « Merci Arnaud, grâce à toi, eh bien, je vais aller vivre d'autres expériences ailleurs. »
Oui, c'est un peu... Et c'est vrai que quand j'en parle, là, ça... Quand j'en parle, il y a beaucoup de choses qui me reviennent.
Ouais.
Et c'est vrai que je me suis toujours dit qu'une personne, ne vit pas la même histoire que... Elle a le droit de la vivre, cette histoire. Elle a le droit de ne pas la vivre. Elle a le droit de choisir autre chose. Mais j'ai l'impression que je ne peux pas, pour l'instant, lâcher prise. Et me dire, bon,
oui,
c'est une adulte. C'est une adulte, elle a tout à fait le droit. Si elle a choisi d'être comme ça, elle l'a choisi. Et c'est très bien comme ça. Et c'est ce fait de lâcher prise là qui coince.
Bon, vraiment, c'est bien parce que je vous trouve très honnête vis-à-vis de vous-même en tout cas. Voilà, vous avez parlé d'ego, moi j'ai parlé de fierté, limite d'orgueil. C'est ça, c'est du lâcher prise. Vous avez vraiment un sentiment d'appartenance très fort vis-à-vis de votre ex-compagne. Maintenant, ce qui peut être intéressant vraiment, et j'espère que vous aurez la réponse, mais une vraie réponse de pour quelle raison est-ce que elle a décidé de mettre un terme à votre relation. Ça pourra vous aider en tout cas. Peut-être que justement, vous étiez peut-être trop dogmatique. Dogmatique, dogme, idée. Imposer ses idées. Vous voyez ?
Oui.
C'est possible aussi. Hein.
C'est possible. Hein, oui, c'est possible. Et même, c'est probable. Hein. C'est probable, c'est sûr. Mais dans tous les cas, je pense que je lui ai fait du bien, en fait.
Et elle vous a fait du bien aussi.
Oui, tout à fait, parce que elle m'a complètement changé dans ma mentalité, ça c'est sûr.
Oui.
Parce que c'est vrai que j'ai un passé, j'ai un long passé dans l'armée. Il y a des choses que j'en parle. Enfin, il y a plein de choses dont j'en parle comme ça. Et pourtant, c'est vrai que j'aurais pas dû en parler à la maison, en fait.
Ne regrettez rien, s'il vous plaît, Arnaud. Maintenant, il faut avancer, trouver une solution. En tout cas, je pense que vraiment, on s'est dit pas mal de choses, on s'est confié pas mal de choses tous les deux. Réécoutez l'émission dans la journée et réécoutez-vous, ça vous permettra vraiment de trouver d'autres réponses également et une perception peut-être différente. D'accord, je compte sur vous. Et puis vous nous rappelez, vous nous direz.
D'accord.
Ok Arnaud. Et soyez prudent, hein, puisque vous reprenez la route.
Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Merci à tous pour votre fidélité durant ce week-end. Merci évidemment à l'équipe de la Libre Antenne, Estelle, Maxime et Fabrice. Merci infiniment pour votre professionnalisme et votre enthousiasme. Vous avez rendez-vous avec Olivier Delacroix dès ce soir à 22h30 et Sabine Marin le week-end prochain. À très très bientôt, moi je vous dis à très bientôt sur Europe 1. Et puis tout de suite, c'est le programme de la nuit et je vous souhaite une douce nuit.